RCF. Bonjour à toutes et à tous. Chaque génération doit faire face à sa jeunesse, souvent turbulente et bouillonnante d'envie et d'idées, toujours innovantes, parfois révolutionnaires, souvent engageantes, mais avec une constante. Ce que l'on fait les anciens, c'est bien, mais nous, on veut faire autre chose, plus vite, et ce sera mieux. Peut-être que je vais être iconoclaste, mais en substance, et si j'ai bien compris les jeunes d'aujourd'hui, c'est « on veut sortir du système, vous les vieux, vous êtes à out, et ce ne sont pas les boomers qui vont faire la loi ». Nous, ce qu'on veut, c'est du sens au travail, fini les tâches que l'on ne comprend pas, qui participent à une stratégie opaque. Nous, on veut avoir notre mot à dire et aux entreprises de répondre « oui, peut-être, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne chez nous, la preuve, ça fait 30 ans que ça marche et on a toujours fait pareil ». Et c'est pas toi le genou qui va venir nous expliquer comment faire. Sauf que aujourd'hui, les entreprises s'étonnent, cette jeune génération, elle démissionne, faisant dire au RH, oh là là, ces jeunes, c'est compliqué, mais ils veulent quoi au fait? Et elle me fait parfois d'ailleurs penser à Gaston Lagaffe qui apporte cette touche de folie et de jeunesse dans une rédaction sclérosée. Mais qui doit s'adapter à qui, à quoi et pourquoi? Et dans quel but? Mais cette question de l'intergénérationnel n'est-elle pas récurrente et ce, quelles que soient les catégories, qu'elles soient X, Y ou Z? D'ailleurs, faut-il parler de génération? C'est le cœur de notre émission Engagement et Travail. Bienvenue dans l'Écho des Solutions.
L'Écho des Solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver dans l'Écho des Solutions. C'est un grand format que je vous propose cette semaine autour d'un thème, les jeunes, l'engagement et le travail. C'est une plénière que j'ai eu le plaisir d'animer dans le cadre du partenariat que nous avons avec l'université Homme-Entreprise du CECA qui se tenait l'année dernière sur le vignoble de Smith Olafite le 23 août 2023, très exactement. Et sous ce soleil, eh bien, avec Emmanuelle Duez, fondatrice du Boson Project, qui prône que le capital humain est un des leviers de développement durable de nos sociétés. Et Olivier Lajouste, vieux loup de mer, amiral de la Marine nationale, DRH de l'année en 2012 en tant que responsable des ressources humaines de la Marine nationale, eh bien nous allons évoquer la question des jeunes, du travail, de l'engagement et de l'intergénérationnel. Mais que serait une conférence sans la parole des jeunes? Eh bien c'est ce que nous allons voir au tout début de cette émission. Trois interventions, Étienne, Alix, Donovan, tous les trois vont nous témoigner à la fois de leurs aspirations de jeunes face au monde du travail qui s'ouvre à eux, mais aussi de toutes les contradictions qu'ils peuvent vivre et qu'ils peuvent soulever. Et puis à la fin de cette émission, c'est pour ça que c'est un peu un grand format, une émission spéciale, on retrouvera Maxime Pavlak pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Alors, le temps d'une petite virgule et je vous laisse en compagnie d'Étienne qui nous introduit à cette question des jeunes, de l'engagement et du travail. Ils sont trois, Étienne, Donovan et Alix.
L'Écho des Solutions, Patrick Longchamp.
Bonjour à tous. Alors on est ravis de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet qui nous préoccupe autant qu'à vous. Et dans cette entreprise plus humaine, il y a des visages plus jeunes. On va vous présenter avec Alix et Donovan cinq aspirations et contradictions qui nous habitent dans notre rapport au travail. L'idée c'est de pouvoir, dans ces contradictions, parler un peu de nous pour vous donner, comme on disait au début, une certaine photographie. Qui soit parlante, on l'espère.
Première contradiction, donc j'ai fait beaucoup de métiers avant d'arriver là où je suis. Parmi ces métiers, j'ai pu être à l'armée pendant 3 ans. Et donc pourquoi je me suis engagé à l'armée? C'est parce que j'avais vraiment ce désir de m'engager dans une cause qui me dépasse. Cependant, il y a eu un individualisme grandissant. Je pense que c'est dû à un retour d'expérience qu'on a eu. Moi, je fais partie des jeunes qui veulent vraiment croire en l'entreprise et qui s'y engagent vraiment sans souci et sans compter les heures. Mais aujourd'hui, quand je suis face à des jeunes de mon âge et que je dois les recruter, donc c'est plutôt un public d'ingénieurs, systématiquement me vient la question du télétravail, du flex-office. Alors moi, j'ai des contraintes derrière, donc je meuble. Mais c'est une question aujourd'hui qui m'intéresse, qui nous intéresse et qui nous concerne. Nous les jeunes, c'est comment mélanger ce désir d'aller vers des valeurs, un dépassement de soi pour le bien commun et en même temps satisfaire ces désirs individuels qu'on peut avoir chacun. Deuxième contradiction, la radicalité et le confort. Donc d'un côté, aujourd'hui en tant que jeune, et aussi avec tous les événements qu'il y a eu, notamment le Covid et puis les différentes crises qu'on a pu rencontrer, il y a ce besoin de radicalité, conséquence d'un biberonnage à l'urgence, donc urgence climatique, urgence politique, urgence, urgence, urgence. Et du coup, nous les jeunes, on veut s'engager de façon radicale. Et d'un autre côté, génération TikTok nous rattrape, il y a ce besoin d'un certain confort. Alors moi, je veux m'engager dans mon entreprise, par contre, si je peux partir à 16 heures, c'est bien. Donc, on est face à cette contradiction d'une radicalité qui est plus ou moins effective sur le terrain. Donc, comment concilier ces deux contradictions ?
Deux autres facettes intéressantes sur lesquelles on sera heureux d'avoir le regard d'Emmanuel Duez et d'Olivier Lajousse. Une première concernant notre vigueur. Les jeunes, nous sommes pleins d'énergie, on est connus pour ça. Pour certains, on sort de nos écoles, pour d'autres, de certaines expériences qui nous ont donné le feu, de formation, etc. Et on a envie d'aller plus vite que les anciens, on a envie de faire mieux, on a envie de rebâtir le système, on a envie de faire mieux, et on râle. Donc il y a une certaine méfiance, un côté un peu anti-système qu'on peut avoir et qui est souvent témoigné. Mais la contradiction, c'est qu'on a quand même besoin de transmission. On a besoin de mentorat. On a vraiment besoin de mentors qui nous accueillent, qui nous donnent leur savoir, qui nous disent « calme-toi ». Et ça, on en a vraiment besoin. On a besoin de rites d'initiation. Première contradiction. Et la seconde, c'est la question de l'engagement et du sens. On ne fait qu'en parler. Et nous, les jeunes, on en a limite marre parce qu'on ne fait qu'entendre « oui, les jeunes, ils sont hyper engagés, ils cherchent du sens ». Oui, c'est vrai, on cherche des choses qui ont du sens et on a envie de s'engager. Mais ce qu'on remarque aussi aujourd'hui, beaucoup, c'est la question de la fidélisation des jeunes qui est hyper compliquée. On voit des jeunes qui picorent de job en job, qui se donnent à fond dans une mission et puis dès qu'ils ont l'impression d'avoir fait le tour, hop, ils arrêtent et ils passent à autre chose. Mais nous, les jeunes, on a besoin d'une contrainte, on a besoin d'un cadre. On a besoin d'une exigence, et ça, il faut vraiment pas l'oublier. Parce que notre exigence va vraiment nous permettre de nous épanouir. Donc on compte aussi sur les anciens pour nous donner cette exigence et cette contrainte qui puisse nous tirer vers le haut. Et c'est là-dessus aussi qu'on attend Emmanuel et Olivier pour nous donner les moyens pratico-pratiques pour pouvoir communiquer et s'agencer les uns les autres.
Et une dernière contradiction que je traverse aussi, c'est que d'un côté, on cherche un métier qui soit très intense, avec des challenges à relever, des défis. Et à côté, on cherche à sanctuariser, en tout cas moi, ma vie privée. On veut pas reproduire nos parents qui travaillaient des heures et qu'on voyait jamais, qui s'épuisaient dans le travail, etc. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas reproduire. Et il y a aussi tout l'avènement de la fameuse semaine de 4 jours. Moi, personnellement, je travaille au 4-5e. Ça a été un choix que j'ai proposé à mon entreprise au moment de l'embauche. Parce qu'à côté, je fais des études de philosophie, ça m'intéresse, c'est une manière pour moi d'être équilibré dans mon quotidien. Et donc, ça a été intéressant pour moi de voir que l'entreprise qui m'accueillait dans cette, pour travailler ensemble, d'un côté, me donnait des challenges à relever, et de l'autre, savait que j'avais besoin d'un sanctuaire un peu à moi, qui en l'occurrence, sont les études. Donc je travaille chez Bonafide, qui est un institut aussi de sondage à Paris. On a interrogé pour le cabinet Arthur Hunt, des cadres dirigeants et des cadres encadrants, 500, pour les interroger sur le mouvement de la sociétalisation de l'entreprise, qui est quelque chose qui monte dans la vie de l'entreprise. Et deux enseignements qu'on voulait vous transmettre et qu'on voulait vous partager, c'est de voir qu'en fait, les aspirations qu'on vous a présentées ici, apparemment, vous les partagez aussi. La première chose, c'est quand on leur demande quelles sont les valeurs principales que vous cherchez dans l'entreprise, ils répondent en premier lieu les valeurs, on va dire, morales, donc éthique, honnêteté, le respect, etc. Devant les compétences qu'on peut dire plus traditionnelles, je sais pas, le leadership, la capacité d'innovation, la vision stratégique, etc. Donc déjà, premier enseignement qui est une réelle bascule, on peut dire, depuis 20 ans. On n'aurait pas répondu la même chose il y a 20 ans. Deuxième enseignement, c'est comment vous voyez les bifurqueurs. Vous savez, les bifurqueurs, c'est les étudiants qui... à la remise de diplôme AgroParisTech, ont réfuté en fait de vouloir servir le même schéma. On poussait un peu un gros bruit pour dire non, on aimerait proposer autre chose. Et les cadres dirigeants interrogés répondent à 88%, on comprend et on valide, enfin on comprend la dynamique à l'œuvre. Ça montre bien que c'est une préoccupation qui est plus large que simplement pour les jeunes. Voilà, donc sur ces éléments qu'on vous a partagés, on serait intéressé de voir un peu vos retours et puis on vous interrogera peut-être ensuite, après votre intervention.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Du coup, vous en pensez quoi, Emmanuel et Olivier, de ce qui a été changé ? Est-ce que ça vient confirmer vos observations, vos observations de l'évolution du travail, de l'attente du travail chez cette jeune génération, puisqu'il y en aura une autre après ?
Il n'existe pas de rapport au travail spécifique d'une génération. Mmh. Chaque génération, elle est protéiforme, elle est multiple en fait. Donc c'est ce qu'on partageait avant de monter sur scène. Il n'existe pas une jeunesse, il existe des jeunesses, mais comme il existait des jeunesses pendant toutes les générations précédentes. Néanmoins, on arrive à voir émerger dans ce qu'on appelle des cohortes générationnelles, donc des populations qui ont vécu des moments de vie qui façonnent des valeurs et un rapport à l'existence, au temps, à l'autre spécifique. On arrive à voir émerger une sorte de pattern par rapport au monde du travail et qui est le miroir d'une époque. La jeunesse est le miroir de l'époque d'aujourd'hui. On en parlait pendant le déjeuner. Il y a l'inné, il y a l'acquis, puis ensuite il y a le chemin de vie. Le monde dans lequel on arrive, le monde dans lequel on rentre dans le monde du travail, façonne un certain rapport au monde du travail. Et si je fais un résumé des 15 dernières années, il y a 15 ans, le rapport au travail, il était encore statutaire. C'est un peu ce qui a été évoqué par un des trois jeunes. Je ne veux pas perdre ma vie à la gagner. Je veux vivre et travailler. Et le rapport là qui dominait, notamment dans des professions intellectuelles, c'est un rapport statutaire. Comme je travaille, je suis moins dans mes yeux à moi que dans les yeux des autres. Donc ça définissait une position dans la société. À la suite de ça, très rapidement, notamment avec la révolution digitale, que Michel Serre appelait la quatrième révolution anthropologique majeure de l'histoire de l'humanité, l'émergence des petites poussettes, donc une génération mondialisée d'un point de vue sociologique, on a vu apparaître un nouveau rapport au travail, et ce rapport, il était plus communautaire que statutaire. Là, c'est la notion de tribu. Il y a une entreprise que je vous invite à googliser qui s'appelle Octo, qui avait carrément construit un modèle social autour de ces tribus, mais à plus grande échelle, la tribu Google, par
c'est
exemple,
ce que j'allais dire, oui.
La tribu Apple, la tribu L'Oréal, c'était des affinités collectives. C'était presque, en fait, des jobs lifestyle. Mmh. Ensuite, on a eu la pandémie, qui a marqué une rupture très forte dans le rapport au travail. Et voilà, ça, c'est 15 ans. Il n'y a pas une génération toutes les 2-3 ans. Donc, c'est bien que, finalement, le rapport au travail, il est plus cadencé que ça, il est plus rapide que ça. La pandémie, en fait, elle a fait émerger un nouveau deal qui est comme je vis, je travaille. Puisque je dois travailler en distanciel, puisque tout s'arrête, mais que je dois continuer à bosser, alors ma vie va rentrer dans le travail. Et là, il y a eu un changement gigantesque, qui n'est pas un changement générationnel, puisque ça concerne toutes les générations. C'est qu'en fait, les hommes et les femmes ont laissé tomber le masque et n'étaient plus des collaborateurs qui se rendaient au travail, qui mettaient leur masque de « je suis Jean-Claude, le collaborateur », et ensuite qui rentraient chez eux. Il y a une porosité extrême entre ce qu'ils étaient profondément et la manière dont ils s'engageaient au travail. Comme je vis, je travaille, c'est finalement pas de masque, authenticité absolue dans mon rapport à l'engagement, quel qu'il soit. Le travail devient un engagement comme les autres et je viens avec ma personnalité, mon authenticité, mes problèmes de chien, de couple, d'enfant, etc. Post-pandémie, ça c'est un acquis social. Alors pour des dirigeants, c'est un recul en arrière. Pour des managers, c'est un casse-tête chinois parce qu'il faut créer de nouvelles limites à la pratique managériale. Mais il n'empêche que ça c'est cranté. Et puis, dernier effet de houle, et là on parle de la très jeune génération, hein, la génération Z, née après 1995, qui représente un tiers de la population mondiale. Comme je travaille, je vis, et non pas comme je vis, je travaille. Là, on a une explosion des barrières entre la vie pro et la vie perso, et une recherche, et ça a été évoqué également en introduction, d'éthique. Le poète Pierre Réverdi en donnait cette définition. L'éthique, c'est l'esthétique du dedans. Ça veut dire, c'est plus que simplement je vais être moi, je vais être authentique. Je vais aller chercher dans mon engagement par le travail une manière d'être au monde, d'être aux autres, d'être utile. Je ne le cherche pas dans les yeux de mes copains ou dans les yeux de la société. Donc on n'est pas dans un rapport ni communautaire ni statutaire, mais je veux pouvoir me regarder dans une glace et me dire que dans un monde aux limites planétaires finies, ce que je fais au quotidien est utile. Donc voyez qu'en 15 ans, 15 ans de pratique de sociologie des organisations...
Il y a eu 3 ou 4 révolutions différentes.
Il y a eu 4 évolutions qui sont extrêmement profondes. Et au milieu de ça, des dirigeants, des managers, des entrepreneurs, des actionnaires complètement perdus par cette machine à laver du rapport au travail qui n'est pas que générationnel.
Alors justement, la question suivante pour vous, Olivier, c'est vous avez été DRH de la Marine nationale, donc vous avez vu cette évolution du travail. Aujourd'hui, vous accompagnez des entreprises, plutôt des entreprises familiales, le groupe Mullier, Michelin, Bonduelle. Et ces questions-là, 3 révolutions en 15 ans, dans les CODIR, dans les gouvernances, on doit se les poser. Comment est-ce qu'ils abordent justement ces révolutions qui sont presque bout à bout, hein, c'est-à-dire tous les 3 ou 4 ans, il y a une nouvelle perception du travail?
Alors, ils sont... D'abord, bonjour à toutes et à tous. Et ravi d'être là. Tout est humain. Et donc, les CODIR, longtemps, ont été dans une espèce de conviction, on va dire ça comme ça, que le temps était... On pouvait maîtriser le temps, on s'inscrivait, il y avait des règles, etc., etc. Et puis est arrivé l'inattendu. Ma vie de militaire et ma vie de marin m'a appris que l'inattendu, c'est tous les jours, tout le temps. Et que la seule façon de bien vivre, et encore plus de bien diriger si on doit diriger, c'est d'être en permanence attentif à tous les événements autour de nous qui vous obligent à vous adapter. Michel Desjoyeaux, 2 fois vainqueur du Vendée Globe, quand il arrive pour la 2e fois vainqueur de cette course magique à Sable d'Olonne, la journaliste lui dit « Alors Michel, vos impressions, peut-être tes impressions ?» Et après un petit blanc, il dit « Elle m'a laissé passer ».
La mère.
Tout est dit dans cette phrase simple, c'est que si on veut pouvoir faire réussir un projet, entraîner une équipe, l'amener au succès, à la performance, la faire durer dans cette démarche-là, il faut en permanence être capable d'accepter que des vagues scélérates vont venir les unes après les autres, vous obliger.
Alors des gouvernances qui ont besoin de stabilité, de stratégie, de vision, ouais, comment exactement. Vous leur vendez des vagues déferlantes?
Jusqu'à présent, c'était difficile. Et donc, aujourd'hui, les CODIR que j'accompagne de toutes sortes d'entreprises, des ETI jusqu'aux grands groupes, c'est que ce qui me frappe, c'est qu'il y a celles et ceux qui ont compris qu'on était définitivement dans un monde de mouvement permanent. Un des éléments clés de nos existences, c'est le temps. Et le temps, la magie du temps, c'est le rythme. Quand on trouve le rythme, qu'on est en harmonie avec l'autre, dans la danse, le machin, c'est sublime. Dès qu'on décale le rythme, ça devient très violent. La pire violence qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de lui imposer un rythme qui n'est pas le nôtre. On est au cœur des sujets, comment je travaille, pourquoi je travaille, à quelle vitesse je travaille. Et donc, le rythme, c'est essentiel. Les entreprises, c'était installées dans un rythme, machin, le temps court des finances. Et on voit que ce sont plutôt les entreprises familiales inscrites dans le temps long et avec de la trésorerie suffisamment solide pour pouvoir encaisser les tempêtes qui traversent ça plutôt que celles qui sont dans le court-termisme. De l'autre côté, celles qui sont trop lentes, elles gagnent pas non plus. Et donc c'est en permanence ce fil de funambule, c'est quoi le bon réglage pour être au bon rythme et comment en permanence je m'assure que je suis au rendez-vous de ce rythme. Et donc comment je m'interdis de me laisser enfermer. C'est un débat qu'on a souvent avec Emmanuel, dans des trucs qui sont un peu trop globalisants et qui laisseraient croire que finalement il y a une recette plus ou moins universelle. Il n'y en a pas.
Quel est, Emmanuel, le défi auquel les entreprises doivent répondre dans ces révolutions successives et cette dernière que vous avez évoquée dans la situation post-Covid? On l'a entendu tout à l'heure au travers d'Alix. On fait peut-être peser aussi trop sur la tête de cette jeune génération la question qui nous incombait peut-être, la question du climat, et en même temps du climat, du développement durable, de l'engagement sociétal, enfin tout ce qui touche à la durabilité de notre planète, on le fait peut-être trop peser sur leur tête, et pourtant c'est au cœur de leur problématique.
Alors, il y a 2 questions dans votre question. Ouais, quel est le principal défi aujourd'hui des organisations? Et après, est-ce qu'on en fait trop peser sur la jeune génération? Quel est le principal défi des organisations? c'est la complexité. Le sujet de la jeunesse, il est presque anecdotique, en fait, en ce sens qu'il est révélateur d'un miroir aux alouettes, à la fois de l'époque, mais également dans lequel on se vautre pour ne pas adresser d'autres sujets bien plus complexes. Donc c'est à la fois un des symptômes du sujet dont on va parler pendant une heure, et en même temps, c'est un arbre utile derrière lequel on se cache quand on n'a pas envie d'aller revisiter sa fabrique à performance dans des boîtes gigantesques qui font des dizaines de milliards de chiffres d'affaires dans 90 pays avec 150 000 collaborateurs. Le défi, c'est la complexité. Pourquoi ? Parce que, en fait, on est aujourd'hui dans un monde de permacrise. Il y a toujours eu des crises dans le business. Et si vous aviez fait venir ici un historien, il vous aurait dit « Bah oui, mais dans les années 70, puis dans les années 90, puis dans les années 2000, ok. » Le changement de paradigme majeur que l'on connaît, c'est qu'en fait, il y a une accélération du temps qui a été très... sur laquelle tu as beaucoup écrit, sur laquelle Hartmut Rosa aussi, qui est un grand philosophe, a écrit ce livre « L'accélération ». Il y a une accélération du temps et en même temps, il y a une juxtaposition, superposition, hybridation des crises. Digitales, géopolitiques, industrielles, évidemment environnementales, pandémiques, sanitaires, sociales, démocratiques. Dans ce contexte-là, faire du business as usual, c'est terminé. Et je pense qu'au fond d'eux, la plupart des dirigeants le savent. Il y a eu un monde avant la pandémie. Et depuis la pandémie, le monde économique n'est plus du tout pareil et ne sera plus jamais pareil. Et ça, c'est quelque chose en fait que la plupart des dirigeants et des actionnaires du monde financier, plus que du monde économique d'ailleurs, n'a pas du tout envie d'entendre. Le monde de demain ne sera plus du tout comme le monde qu'on a connu ou cru connaître juste avant la pandémie. Aujourd'hui, on consomme une planète 3 par an. On vit dans un monde aux limites planétaires définies. L'idéal de progrès sur lequel nous sommes assis, sur lequel nous avons construit des sociétés, était alimenté par la croissance. La croissance qui venait puiser dans la Terre des ressources dont on sait aujourd'hui qu'elles sont en quantité limitée, avec des externalités négatives qui sont catastrophiques pour les générations de demain. Dans ce contexte-là, en fait, il y a un enjeu impérieux dont on parle beaucoup et en même temps dont on parle mal, qui est le sujet de redéfinition de la machine à création de valeur. De quelle valeur parle-t-on ? Qu'est-ce que c'est que créer du progrès aujourd'hui ? Et pour qui le fait-on ? Pour moi, le vrai sujet, quand on parle de la jeune génération, c'est pas les jeunes qui sont venus aujourd'hui. Là, on est face à une problématique RH, et on est face, pour 10% de la génération Z, à cette fameuse génération climat sur laquelle on va revenir, que j'aurai plaisir à décortiquer, qui en effet conditionne leur deal vis-à-vis de l'entreprise, aux enjeux de transformation du monde économique et de transition environnementale. 10% d'une population. Pour moi, le véritable sujet, c'est la génération de demain. C'est finalement, on crée de la valeur de quelle manière, de quelle valeur parle-t-on et pour qui le fait-on ? Est-ce qu'on est en train d'hypothéquer, là tous ensemble, l'avenir de nos enfants ? De ceux qui ont moins de 10 ans et de ceux qui ne sont pas encore nés.
Ça veut dire quoi ? C'est une question d'éducation ? Ça veut dire qu'il faut prendre les choses beaucoup plus en amont, j'ai envie de dire, dès les classes maternelles, primaires ? Ou est-ce que c'est un enjeu d'éducation globale pour pouvoir justement anticiper cette génération suivante ?
Non, c'est un enjeu aujourd'hui de wake-up call des générations d'aujourd'hui. Ce n'est pas un enjeu de jeunesse, en fait. Les trois qui sont venus sur la scène, ils savent mieux que vous ce qu'il faudrait faire pour le monde de demain. Et même s'ils ne savent pas ce qu'il faut faire, en fait, ils n'auront pas le choix que de porter cette responsabilité. Donc, à un moment donné, il faudra déployer l'énergie qu'il faut pour trouver des solutions dans le secteur de l'énergie, dans le secteur du retail, dans le secteur du luxe, dans tous les secteurs d'activité.
Et on n'a pas le choix ?
Évidemment qu'on n'a pas le choix, mais là, on ne va pas refaire le débat du GIEC. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le sujet de la formation, de l'éveil ou du réveil des élites dirigeantes dans le monde politique, mais surtout dans le monde économique. Aujourd'hui, sur les 100 plus grandes organisations mondiales, 89 sont des entreprises. Ça veut dire que la bascule du système passe par le monde économique. C'est la raison pour laquelle cette génération climat s'engage d'abord et avant tout dans l'entreprise, parce qu'elle y voit le territoire le plus utile en termes d'impact. Si on va s'engager dans les secteurs les plus cruciaux par rapport à la transformation sociale globale qu'on appelle de nos voeux, alors on peut espérer une bascule du système. Mais la question, c'est moins celle des jeunes, qui se pose dans un deuxième temps, que celle des élites actuelles et de la capacité à ne serait-ce qu'accepter la complexité dans laquelle on est. Et aujourd'hui, on est dans une difficulté à formaliser la complexité, à se la raconter. Il y a le sujet des récits. Comment est-ce qu'on raconte ce qui est en train de se passer ? Comment est-ce qu'on jongle avec l'ultra-court terme ? La thématique, c'est la résilience. Le court terme, c'est l'adaptation. C'est je ne sais pas ce qui va se passer demain. Donc j'entraîne mon organisation d'un point de vue culturel, d'un point de vue managérial, d'un point de vue gouvernance. On peut en parler avec la marine. La marine, c'est un objet mutant de presque 40 000 hommes, avec une chaîne hiérarchique descendante et remontante. Donc comment j'entraîne mon organisation à absorber l'incertitude ? Ça, c'est la résilience. Mais le sujet de plus long terme, parce qu'il faut jongler entre l'ultra court terme, la survie,
et le long terme,
et le plus long terme, c'est comment finalement j'arrive à déployer un imaginaire, des convictions, des valeurs dans un monde inconnu, dans lequel il ne s'agit pas de prédire l'avenir, il faut le choisir. Et plus que le choisir, il y a des choses sur lesquelles il va falloir renoncer, et il y a des routes qu'il va falloir prendre. Et quand je disais qu'aujourd'hui le vrai défi, c'est celui de la complexité, il cache le défi des hommes qui est celui du courage. Le courage de renoncer, le courage de pivoter. Et je pense qu'Olivier le voit très bien en étant une des personnalités imminentes, non familiales, dans l'écosystème Mullier. À un moment, en fait, on doit renoncer à du business, renoncer à une certaine forme de création de valeur en volume pour aller chercher de la valeur, pour aller chercher de l'héritage. Et ça, c'est tout sauf du business as usual. Ça, c'est le véritable défi. Derrière, il y a le défi de la jeune génération, où le sujet, c'est pas qui elle est, le sujet, c'est qu'est-ce qu'on va faire d'elle pour la positionner comme étant le commando de transformation de nos mondes économiques.
Et je reviens à la deuxième question. Est-ce qu'on ne fait pas trop porter sur cette génération toute cette complexité que vous nous annoncez, Emmanuel ?
Là, je prends quelques minutes pour juste camper de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de la génération Z. Ça me semble important. Nous, on a toujours été très intéressés par le sujet des jeunes générations parce qu'on considère que c'est une espèce de loupe sociologique sur le monde du travail, sur l'entreprise, sur les thématiques de responsabilité, sur la société de demain. Et que quand on analyse sans biais, avec de l'amour et un peu d'expertise dans les sciences humaines notamment, cette génération, on arrive presque à prédire un petit peu l'avenir. On a beaucoup travaillé sur les générations milléniales, donc les fameuses petites poussettes de Michel Serres. Et puis, il y a 3 ans, L'Oréal, en pleine pandémie, enfin au début de la pandémie, et nous cherchions en nous disant... Il se passe quelque chose avec cet arrêt mondial de l'économie. Aller rencontrer des jeunes de moins de 25 ans au niveau européen pour façonner le panorama de cette jeune génération. Je vous fais le truc hyper court parce que ça fait des dizaines de pages, évidemment. On a été face à une génération qui est extraordinairement abîmée par l'époque. Elle est abîmée par l'époque, elle est en proie à une triple fragilité. Et là, je parle de vos enfants. Je ne parle pas de gens théoriques dans des études. Elle est abîmée d'un point de vue économique. C'est la plus pauvre des générations dans les pays développés. Aux États-Unis, les générations de moins de 30 ans sont plus pauvres que toutes les générations précédentes et ne pourront jamais les rattraper. Aujourd'hui, il y a 40% des moins de 30 ans qui font 2 jobs, juste pour pouvoir manger à la fin du mois. On parle de plein emploi en France, c'est 15% de salaire chez les moins de 25 ans et on n'arrive pas à réduire ça. C'est 6% en Allemagne. Les jobs les plus précaires, c'est sur la jeune génération. Elle est abîmée d'un point de vue économique et la pandémie n'a rien réglé sur ce sujet. Elle est abîmée d'un point de vue académique. À la faveur de la pandémie, sur les moins de 30 ans, il y a 38% de décrochage scolaire. Pour une partie d'entre eux, c'est gravissime, ça veut dire que les études, c'est terminé. Et ils ont la double peine. Ils sont passés à côté des études, on sort de la pandémie, et comme ils ont des énormes trous dans leur CV, ils deviennent ce qu'on appelle des needs, c'est-à-dire pas de formation, pas de job, rien du tout. Et tout cela génère... Et pas que sur les 2 populations précitées d'ailleurs, ceux qui sont en difficulté économique ou en difficulté scolaire, une détresse psychologique, pour le coup, qu'on n'avait pas vu venir, qu'on a ressenti il y a 3 ans, qu'on a entendu en qualitatif. On a cherché des chiffres. Les chiffres sont sortis 1 an et demi, 2 ans après. Aujourd'hui, le suicide est la première cause de mortalité des moins de 25 ans dans plus de 100 pays. Et ce n'est pas provoqué par la pandémie. Sur 10 ans, il y a une augmentation de plus de 51% du taux de suicide des moins de 25 ans, plus 87% chez les jeunes femmes de moins de 25 ans. Quand on parle de la génération Z, en fait, on parle de ça. On parle d'une génération mondiale qui est une génération empêchée. C'est le bon terme pour mettre de la nuance, de l'empathie sur le sujet. Elle est empêchée, pourquoi ? Parce qu'elle est empêchée de poser les fondamentaux de sa vie, économique, scolaire, psychologique, pour pouvoir agir sur le très long terme. C'est une population pour laquelle le moyen terme n'existe pas. Et je vous invite à vous rappeler, quand vous aviez 25 ans, quel était votre horizon de temps ? Est-ce que ce n'était pas les 20 prochaines années ? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie pro ? Qu'est-ce que je vais acheter ? Qu'est-ce que je vais construire ? Qu'est-ce que je vais vivre ? On est face à une génération qui est dans l'ultra court terme, ici et maintenant. Mon travail, je dois kiffer, je dois ressentir quelque chose. Il doit y avoir de la fraternité, de l'authenticité, de l'apprentissage. Il doit, parce que je n'ai pas le choix. Le moyen terme n'existe pas. Et sur le long terme, pour une population plus cadre ou plus cultivée ou qui s'est posée davantage de questions, et ce n'est pas une histoire de col blanc ou de col bleu. Sur le plus long terme, en fait, toute une génération qui se projette en disant « c'est terminé ». Pour 75% des moins de 25 ans, l'avenir est effrayant. Le taux de bonheur est en chute libre. C'était, je ne sais plus de mémoire, je n'ai plus les chiffres, ils sont dans mon cahier, si ça vous intéresse tout à l'heure, je les regarderai, mais c'était l'ordre de 60% pour votre génération, donc les baby-boomers, où on se disait « très heureux ». Je suis très heureux à 20 ans. Aujourd'hui, on considère à 60% que c'est une malchance que d'avoir 20 ans en 2023. Et là, vous allumez BFM TV et on dit la génération Z, c'est une génération de chochottes qui n'a plus le goût de l'effort et qui s'invente des maladies psychologiques avec l'éco-anxiété. Quand on parle de la génération Z, en fait, on parle de ça. Et ça, c'est mondial. Pour venir dans l'avion, j'ai lu le livre de Christopher Guérin, donc qui est le CEO de Nexans, qui est une boîte industrielle mondiale pour laquelle j'ai eu la chance de travailler. Et il explique que ce que je suis en train de vous raconter, il observe dans ses usines partout dans le monde. On parle d'ingénieurs et on parle d'ouvriers. On parle de jeunes de moins de 30 ans qui sont venus exiger à son bureau de PDG une définition holistique, systémique de la performance, en disant ça sera la performance économique, la performance sociale, donc l'humain, l'excellence humaine, les sujets dont ont parlé les trois jeunes d'introduction, et la performance environnementale. Sinon, en réalité, il n'y aura pas d'engagement, donc il n'y aura pas de performance, tout court.
Olivier, comment vous réagissez à ça ? Parce que vous, en tant qu'ex-DRH de la Marine, accompagnateur et consultant auprès d'entreprises, on voit bien que quand cette génération, parce que c'est une complexité, un mal générationnel, et il faut pouvoir les intégrer dans les entreprises, parce que l'entreprise, même s'il y en a qui sont un peu sur le carreau, et je pense aux NITS en particulier, il y en a qui travaillent, et il faut qu'ils soient bien dans leur travail. Alors, on sait que la question du bonheur au travail, le bien-être au travail, on en a longtemps glosé, mais simplement, être bien, avoir plaisir de trouver du sens dans le travail, c'est un vrai défi pour les entreprises que d'accueillir cette génération, de l'assimiler avec l'ancienne génération, avec la culture de l'entreprise qui elle-même est en mouvement. Comment on pilote tout ça, Olivier ?
Avec beaucoup d'humilité, hein.
J'imagine.
Non, je crois que ce serait très prétentieux d'imaginer qu'on puisse amener des gens à s'engager, etc. Faut beaucoup d'humilité. On l'a dit, on l'a redit, et je le redis à nouveau pour que ce soit bien clair. Moi, je suis pas du tout à l'aise avec les générations, les machins, et Emmanuel l'a très bien dit. Chacun d'entre nous dans cette salle est unique. Un système immunitaire unique qui se défendra plus ou moins bien contre telle piqûre de moustique ou d'autre. Voilà, on est chacun des êtres uniques. Et donc, si je n'ai qu'un mot à dire, s'il devait y avoir une réponse à cette question, c'est j'accueille. J'accueille, ça veut dire... Je n'ai pas de préjugés. Je ne pars pas du principe que parce que cette personne est blanche, noire, rouge, homo, hétéro, croyante, pas croyante, jeune, vieille, que sais-je encore, ça je le mets de côté, ça n'existe pas. J'ai en face de moi un être humain. Je me dis, cette personne, elle a des talents, je les connais pas tous. Si j'essaie de les mettre dans une case en disant elle va être capable de ça, ça, ici, ça va vite être insupportable pour tout le monde. La pire chose que l'on puisse faire, c'est de dire à quelqu'un « voilà ce que je voudrais que tu sois ». Nous-mêmes, on ne supporte pas. De quel droit on dirait à quelqu'un « voilà ce que je voudrais que tu sois ». Mais va te faire voir. Souvent, je réagis quand quelqu'un me dit « oh oui, tu sais, je lui ai donné ma confiance et puis elle a été trahie ». Je dis « c'est normal puisque déjà tu t'es mis dans une posture de donner. Ça se donne pas, la confiance ». La confiance, c'est une relation exigeante que l'on bâtit ensemble au jour le jour. Je dis jamais ma femme, je dis toujours Sylvie. Je l'ai connu, il avait 6 ans, j'en avais 7. On se kiffe toujours autant. On va fêter nos 50 ans de mariage en peu de temps. Et elle est Sylvie. Donc, à la question, je réponds. 1. Humilité. 2. Posture d'accueil. 3. Conjugaison de tous les possibles. Et pour ça, c'est comment je me mets au service de l'autre pour que petit à petit, on trouve le chemin ensemble. Au marin, on dit « J'attends de toi que tu sois ARS ». Autonome, responsable, solidaire. Autonome parce que tu seras capable de faire seul un certain nombre de choses, ça te mettra en confiance pour toi, pour machin. Donc cette autonomie te viendra parce que, c'est un débat qu'on avait souvent avec Michel Serres, tu auras développé des compétences. Michel disait souvent « la compétence, c'est essentiel ». Et je lui disais « tu as raison, enfin, vous avez raison, vous voyez, mais c'est loin d'être suffisant ». Et quand on a trop mis la compétence en avant, on s'est mis en danger. Dès qu'on force trop le trait sur un sujet ou l'autre, on déséquilibre et on met en danger. Et puis la troisième chose, c'est je ne peux rien tout seul. Et donc, je prends un exemple très simple. Le jeune matelot, 18 ans, il est bac à sable, comme je dis en riant, hein, donc c'est-à-dire même pas bac machin. Il s'est arrêté en seconde, il est un peu perdu, il n'était pas à l'aise à l'école. On lui propose de venir à l'école des mousses. On lui apprend à retrouver la dignité de lui-même, c'est essentiel. Et puis, à partir de là, on lui dit, tu peux grimper les marches de l'escalier social. Je connais pas d'ascenseur social. C'est d'autant plus dangereux que les ascenseurs sont souvent en panne. Et donc, vaut mieux monter l'escalier soi-même, être l'acteur de sa vie. Et donc, sans que le rêve soit utopique, inaccessible, c'est, on est en vie, comme dit Teilhard de Chardin, quand on est en mouvement et en questionnement. Mais si on ne fait que se questionner sur tout ce qui va mal et qui est en train de partir en sucette, il n'y a plus qu'à sauter par la fenêtre, quoi. Et donc, c'est, étant très conscient, comment je ramène les gens en disant, vous savez quoi, on va morfler, c'est difficile, il y a des vagues scélérates, et sachez que va en avoir un paquet les unes après les autres, mais parce qu'on va être capable d'être ARS, autonome, responsable et solidaire, parce qu'on va être capable de dire pourquoi on se lève le matin, pourquoi on est prêt à faire quelque chose, au service de quoi on se met, alors il y a des plein de possibles. Je peux pas vous dire où on va arriver. Qu'est-ce qui disqualifie aujourd'hui la classe politique? C'est qu'elle a raconté des sornettes et qu'elle a tenu aucune de ses promesses. Mmh. Alors elle est disqualifiée. Qu'est-ce qui peut disqualifier le chef d'entreprise? C'est qu'il fasse la même chose. Quand je recrutais des jeunes, la marque employeur, c'était quoi? C'était tous ceux avec qui j'ai parlé, ils me disent que ce que tu leur as dit, c'est vrai. Bien ce qu'ils ont pu faire. Un môme qui rentre dans la marine, on lui dit pas tu vas faire carrière dans la marine, on lui dit tu vas faire 10-12 ans. Nous, ce qu'on te promet, c'est qu'au bout des 12 ans, quand tu partiras, et on sera content de te voir partir, parce que nous, on veut pas garder les gens trop longtemps, il faut des équipages jeunes. Donc, voilà, ça nous arrange que tu partes, on garde 15% des gens dans les longs termes. Et tous les autres s'en vont plus tôt. Mais quand ils partent avec un capital de compétences, de les quatre pieds de la chaise du savoir, ils savent faire, ils savent être, et ils savent faire savoir, c'est-à-dire partager. Et donc ça, c'est bien équilibré, et ils sont chassés sur le marché de l'emploi, ils ont un emploi avant même de quitter la marine. Et donc parce qu'on leur permet de faire ce chemin-là, ils viennent et ils s'en vont. Ils sont les acteurs, ils sont accompagnés, on n'a pas fait à leur place, mais on a proposé cette dynamique. Ça, c'est ma réponse à la question. Un peu longue, ma réponse, pardon.
Alors comment on fait justement pour mettre les paroles, les mots en acte? On le voit, la loi Pacte, elle a permis à un certain nombre d'entreprises de poser des mots sur la raison d'être des entreprises. Et comme vous le dites, il y a des entreprises, quand on les voit, quand on les pratique, on dit « oui, ce qu'ils disent, c'est vrai, je l'ai expérimenté en tant que client ». Je l'ai expérimenté en tant que salarié, mais comment on peut arriver, il y en a d'autres qui posent des mots mais qui ne les mettent pas en œuvre, comment est-ce qu'on peut justement mêler l'acte aux mots?
Quand j'ai recruté près de 5000 jeunes par an pour la marine, c'était en 2008-2009, on leur disait tu rentres dans une institution dont les quatre valeurs sont, deux points, ouvrez les guillemets, honneur, patrie, valeur, discipline. Waouh. Alors, je me disais, un môme de 18 ans, à qui je dis c'est ça les valeurs, s'il est normal, il se barre en courant. Parce qu'à l'époque, quand même, c'était des mots, putain, qu'est-ce qu'on met derrière honneur? Qu'est-ce qu'on met derrière valeur, discipline? Alors, on part en courant, quoi. Et puis, patrie, ça veut dire quoi, c'est quoi, etc. Donc, dans un premier temps, la marine s'est dirigée par un comité de direction de 8 amiraux. Voilà, moi, j'étais le numéro 3 de la marine, parce que des RH, la moitié du budget au bout de mes doigts, etc. Donc, un personnage clé dans ce collectif-là. Et je leur dis un jour, c'est quoi les amis, j'aimerais bien qu'on s'interroge sur ces quatre valeurs et qu'on imagine que peut-être on va en trouver d'autres, enfin on va se mettre au goût du jour. Je me suis fait avoiner, mais alors, tu n'y penses pas, honneur et patrie, ça vient de la constitution de la Légion d'honneur avec des décrets, machin, et puis valeur et discipline, de la constitution de la croix de la valeur militaire, machin. Donc si tu veux changer, ok, mais rendez-vous dans une vingtaine d'années, le temps de détricoter les décrets. Bon, j'ai compris qu'il fallait pas s'entêter. Mais en revanche, je n'ai pas abandonné en me disant, on va demander à ces jeunes gens, qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots pour vous? Et donc on a travaillé, et Michel Serres, Didier Decoing, etc., que j'ai associé à ça, j'ai reçu des milliers de pages de réponses à qu'est-ce que vous mettez derrière chacun de ces mots-là. On en a fait machin, on a fait ça, on a appelé ça le livret du marin, et on a dit, être un marin au service de la France, un marin de l'État au service de la France, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots? Et comment on les pratique au quotidien? Comment concrètement, ça, ce sont des choses qui sont vivantes. Le nombre d'entreprises où je vois sur des papiers glacés, nous ici dans l'entreprise machin, nos valeurs sont la bienveillance, l'excellence et machin. Quel bullshit. Tu vas dans l'atelier, tu pars en courant. Quoi. C'est du gros foutage de gueule. Il y a rien derrière. C'est juste pour faire bien. Et je pourrais citer des entreprises, mais je suis gentil, donc je vais pas le faire. Et donc, à partir de là, c'est d'un cynisme absolu et ça décourage tout le monde. Il faut pas jouer avec ça. Donc on a refait ce travail-là, tous les ans on a une journée du marin, qu'est-ce qu'on a fait des quatre valeurs? Et je me souviens, quand je suis parti en 2012, mon successeur c'était Christophe Frazuc, que Emmanuel connaît bien aussi, parce qu'elle est devenue très fan de la marine, et Christophe il m'a remplacé comme DRH, puis il a été le grand patron de la marine. Il m'a toujours appelé Yoda, parce qu'on avait il y a plusieurs fois on a travaillé ensemble, et il était souvent mon bras droit ou mon bras gauche, et j'ai cette façon de parler, semble-t-il, qu'il soit un peu Yoda, peut-être ma tronche aussi. Il y en a qui, d'autres qui me disent, ils me voient, ils me demandent de signer en croyant que je suis Vincent Lindon, bon peut-être, je sais pas. Mais Yoda, ça me va bien, parce qu'on peut se planquer dans la forêt de temps en temps, et donc il m'appelle, enfin je lui dis en lui passant la suite, tu vois ce qu'on a fait là, ça serait bien que vous le retravaillez d'ici 3-4 ans, parce que les mots sont vivants. Il me regarde, il me dit, putain Olivier, t'es devenu gourou, les mots sont vivants, oh. Je dis, bon écoute, c'est pas grave. Il n'a pas compris sur le moment. 2016, mon téléphone sonne. Allô, Yoda, c'est Christophe. Voilà. Il y a le feu. Il dit non, mais je viens de comprendre ton truc, les mots sont vivants. Tout ce que vous avez écrit en 2009 sur le mot patrie, eh ben, on va être obligé de tout réécrire. En 2009, quand on parle de la patrie, c'est quelque chose d'érasmusé, de loin. C'est même un mot qui peut faire peur. Patriotisme, surtout ça, voilà. Sauf qu'en 2015, le Bataclan, etc., etc., à nouveau, la patrie saigne, elle est touchée. Le mot prend une autre tonalité. Et donc, il faut beaucoup d'humilité, là encore, en se souvenant que quand on va chercher des valeurs, chaque mot a une tonalité forte, cette tonalité est dynamique, elle peut changer dans le temps. Et donc, si on veut mobiliser autour de ça, il ne faut pas se tromper de devoir et il ne faut pas le faire à l'emporte-pièce. Ensuite, j'accompagne, je suis au comité humain d'une grande entreprise qui fait des articles sportifs pour le monde entier, qui est un fleuron français. Allez, je vais dire son nom, Décathlon, qui j'accompagne depuis un bout de temps. On a, dans le comité humain, de très belles réflexions. Il y a des très beaux parcours. Et à un moment, leur truc, c'était, mais finalement, vous, les militaires, c'est facile. Vous défendez le machin, la planète, la paix, le machin. Donc, vous avez une mission. Nous, on vend des godasses de sport. C'est quoi notre truc? J'ai dit, mais arrêtez de penser comme ça. Vous faites une mission essentielle pour l'humanité. Vous rendez le sport accessible au plus grand nombre. En le faisant, vous aidez les gens par le sport à être en bonne santé. Regardez les choses par en haut, pas par en bas. Ne regardez pas par le business, l'objet, le machin. Regardez par au-dessus. Montez dans les étoiles. Allez sur Sirius et dites, ça sert à quoi tout ça? Et puisque, hélas, ont été disqualifiés au fil des décennies écoulées beaucoup de gens qui auraient dû assurer ces fonctions-là, l'école, etc., etc., aujourd'hui, on se tourne vers l'entreprise pour faire ça. C'est à la fois bien et dangereux, une entreprise qui deviendrait politique, Hartung. C'est en même temps très exigeant, mais il est sûr que c'est par ces biais-là, par le biais de l'entreprise, qu'on va probablement pouvoir faire bouger les lignes. Mais il ne faut pas en demander plus que ce qu'elle peut apporter.
Et ce qu'elle peut apporter. Emmanuel, comment vous réagissez sur cette question de mettre en musique les paroles et les actes particulièrement vis-à-vis de cette jeune génération, comme vous l'avez dit, qui est à la fois exigeante sur la question du sens, mais aussi en perte de repère, en mal-être générationnel.
Cette fois-ci, c'est moi qui vais être très pragmatique.
Soyons
après
pragmatique.
Les envolées lyriques d'Olivier. Si je reprends ce que je vous ai partagé tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la génération Z, c'est les moins de 25 ans, grosso modo, d'après 1995, 32% de la population mondiale. Et qu'au sein de cette génération, vous avez 10% d'une population qu'on appelle la génération climat. Et quand on a parlé d'agro-paritech, de ces jeunes qui veulent déserter, etc., ou qui se mettent les mains dans le ciment sur le périphérique parisien, voilà, génération climat qui fait un lien finalement entre son engagement pour le travail, la transition environnementale et la transformation du monde économique. Prenons d'abord la génération Z au sens large. Ce qu'on voit comme, pas technique managériale parce que ça n'existe pas, mais les fondamentaux qu'il faut avoir en réalité pour toutes les générations, mais particulièrement pour cette génération, sont de plusieurs ordres. La première, c'est prendre soin. Et pas du care en mode cuculapraline dont on nous rabâche les oreilles depuis 15 ans et qu'on n'a jamais vu advenir dans aucune entreprise. Prendre soin, c'est avoir à minima la considération et l'écoute pour les chiffres que j'ai partagés tout à l'heure. Alors certes, en fait, ça fait chier de les entendre. C'est pas ça qu'on a envie d'entendre. Et puis, comme le dit Edgar Morin, il est trop tard pour être pessimiste. Mais on ne peut pas bien saisir la nature des sujets dont on parle si on n'a pas une vision parfaitement claire et presque chirurgicale du sujet. Donc prendre soin, c'est déjà accepter d'entendre ça. Que l'éco-anxiété, c'est pas une mini maladie mentale qu'on s'est inventée parce qu'on n'a plus le goût de l'effort. C'est beaucoup plus profond que ça. Et que même quand on ne sait pas l'exprimer, parce qu'on n'a pas les mots, ou parce qu'on n'a pas conscience, en réalité, c'est quelque chose qui ronge et qui fait mal. Vous savez, je pense que vous avez suivi dans les médias, il y a une explosion des maladies mentales auprès des jeunes générations. C'est 3 fois plus important que chez les plus de 50 ans. Donc prendre soin, comme l'a dit Olivier, c'est une autre manière, d'un point de vue managérial, d'accueillir. C'est une autre manière de dire la même chose, finalement, d'être dans une posture d'accueil. Le deuxième sujet, c'est d'accepter, ce qui a été évoqué également en introduction avec les jeunes, la distance saine. Il y a une nouvelle distance vis-à-vis du monde du travail. Se tuer à la tâche pour se faire bien voir, c'est un non-sens absolu dans un monde où, j'ai retrouvé mon chiffre, 56% des moins de 28 ans considèrent que l'humanité, elle est condamnée. À quoi ça sert de se tuer à la tâche au travail ? Le mot qu'on entend le plus quand on fait des entretiens qualitatifs semi-directifs, sous couvert d'anonymat, c'est vain. V-A-I-N. La vacuité du travail. Il faut donc accepter, quand on est un manager ou un dirigeant, une nouvelle distance vis-à-vis du travail. Moi, j'ai en tout plus de 50 salariés. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce n'est pas simple du tout. D'abord parce qu'ici, on me présente comme étant la vieille qui va écouter des jeunes. Ça me fait un peu mal au ventre. Mais en plus de ça, parce qu'en tant que patronne, en tant que recruteuse, en tant que dirigeante, quand j'ai vu arriver dans mes 2 entreprises des jeunes qui ont exigé, ont imposé, parce que je n'ai pas eu le choix, comme vous n'avez pas le choix, ce nouveau rapport au travail, alors que moi, je suis dans un rapport intense et absolu, parce que le travail m'émancipe et dit de moi ce que je suis, il a fallu que j'accepte ce nouveau logiciel. C'est un rapport qui est plus apaisé, qui est plus serein, qui à leurs yeux est plus sain, qui probablement est plus sain dans l'absolu d'ailleurs, et que j'accepte.
Alors c'est...
Je finis juste pour que vous ayez bien les éléments clés. Prendre soin, la distance saine, donner sa chance, c'est ce qu'a évoqué aussi Olivier avec l'école des mousses. N'oubliez pas ce que je vous ai partagé sur ceux qui sont partis, ceux qui sont fracassés, ceux qui ont des trous dans la raquette, etc. etc. Voir plus loin que les idées reçues, mais ça c'est l'objectif de l'heure qu'on est en train de passer ensemble, en se disant que finalement ils sont surtout le reflet d'une époque. Et d'où peut-on en vouloir à l'époque, en fait ?
Alors j'ai encore
et,
une.
Et dernier point,
ça va venir, ça va
parce
venir.
Que c'est le sujet de l'intergénérationnel, miser à fond sur l'intergénérationnel. Alors, c'est sûr que la fracture, c'est plus vendeur que de dire qu'il y a une danse intergénérationnelle à réinventer. Il y a eu plein de livres qui ont fleuri ces 6 derniers mois, notamment des livres qui s'appellent « La fracture en géant sur fond rouge », qui expliquent qu'en fait, les générations se détestent, et ce, depuis la nuit des temps, et c'est de pire en pire. En réalité, nous, on a mené, donc avec l'ONG Youth Forever, qui est un observatoire dédié aux moins de 25 ans au niveau européen, une étude sur l'intergénérationnel. On n'a pas demandé... les vieux, vous vous sentez comment ? Les jeunes, vous vous sentez comment ? Et comment vous regardez les vieux qui sont affreux, les jeunes qui sont affreux ? On leur a demandé de projeter leurs responsabilités et leurs enjeux pour leur génération. Et c'est là qu'on voit une valse générationnelle extraordinaire. Quand on demande, en fait, aux baby-boomers quelle est votre responsabilité pour le monde de demain, Et quelle est votre responsabilité pour les générations du dessous? Ils répondent, donner le goût d'apprendre, le goût de la nuance, donner le goût de la joie. Quand on demande aux générations X, qui sont les gens en position de responsabilité aujourd'hui, quelle est leur responsabilité par rapport aux générations du dessous? Ils répondent une posture d'humilité, le mot qui a été évoqué par Olivier. Quand on demande aux gens de ma génération, qui sont les futurs dirigeants du pays et des entreprises, quelle est votre responsabilité par rapport à la génération qui vient? Faire le bilan de l'héritage. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Faire l'inventaire, léguer un héritage. Être un agent, finalement, de lien. Et quand on demande à la très jeune génération, cette fameuse génération climat, il faudra que vous me posiez quand même cette question. Quel est le rapport de la génération climat au monde de l'entreprise? Quelle est votre responsabilité, à vous en tant que génération, celle d'être un commando en préparation pour accompagner la transformation du monde économique?
La question qui me vient, c'est que quand je vous entends, Emmanuel, on voit un portrait de cette génération complexe, compliquée, torturée. Mais quelle est sa richesse et qu'est-ce qu'elle peut apporter aux entreprises dans cette dynamique intergénérationnelle?
Pas mal. Justement, je vous ai dit qu'il y avait 100% d'une génération et 10%. Mais en réalité, comme dans toutes les générations, quand on fait de la sociologie des organisations, donc c'est l'art de la transformation des entreprises, jamais de la vie, on rentre dans une boîte et on se rend compte que 100% d'une génération sont des gens hyper engagés, hyper motivés, sur qui on peut compter pour accompagner des transformations complexes. Jamais. Ni chez les vieux, ni chez les jeunes. Dans la jeune génération, cette fameuse génération climat, elle a quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que elle réhabilite l'entreprise comme territoire d'impact. Elle ne croit ni en l'école, ni dans les médias, ni en la politique, ni en la France. Elle croit en l'entreprise pour pouvoir accompagner la bascule. Donc elle est prête à s'engager sans compter à partir du moment où on lui fait confiance. Là, vous voyez une espèce d'alignement des planètes entre une jeunesse qui a aujourd'hui plus que jamais besoin d'une entreprise pour lui mettre le pied à l'étrier de l'impact, et une entreprise qui s'est dit « Ok, c'est la merde, permacrise, etc., tout ce qu'on a partagé, on sait le pourquoi, on sait presque le comment dans la plupart des entreprises. Olivier passe son temps à faire des plans et qu'est-ce qu'on va transformer ?» Mais on ne sait pas le qui. On ne sait pas encore poser la question du qui. Parce que le qui, ce n'est sûrement pas des armées du BCG ou de McKinsey qui vont venir dans toutes les TPE de France. Je vous rappelle que 90% des entreprises de France sont des PME et des TPE. Pour venir accompagner les bascules. Ça, c'est totalement illusoire. Le qui, ce sont eux. Le qui, c'est les 10%. Donc, qu'est-ce que ça exige? Ça exige, en fait, de changer de regard sur les sujets, de déciloter et d'inventer un nouveau pacte entre l'entreprise avec un grand E et la jeunesse avec un grand J. Un pacte qui passerait par 3 étapes. Care, je répare une génération en ayant conscience que parce qu'elle est le reflet de l'époque, elle est abîmée. L'époque est contrariée. Vos enfants sont le reflet de cette contrariété. 2, je prépare. J'apprends le pouvoir, les responsabilités. J'apprends l'art de la transformation. J'apprends la complexité d'un secteur d'activité en particulier. 3, quand les hommes et les femmes sont prêts, et ça prendra 5 ans, et ça prendra 7 ans, parce que la préparation et la transformation, c'est l'art du temps long, je laisse faire. C'est care, enable, impact. Réparer, préparer, transformer. Ce que L'Oréal attend pour pouvoir accompagner le pivot de ce business model en dizaines de milliards d'euros, en fait, ils sont déjà à l'intérieur de l'entreprise. Il faut les former, mais à un moment donné, il ne faudra pas casser le pacte de confiance. Il faudra que les dirigeants, il faudra que les actionnaires tiennent leurs promesses jusqu'au bout et soient en capacité de lâcher et de laisser faire une génération qui aura conditionné son engagement dans le monde du travail par rapport à ces transformations à mener.
RCF, l'écho des solutions.
Voilà, merci beaucoup à Emmanuel Duez, Olivier Lajouste, Alix Donovan et Étienne qui furent mes interlocuteurs lors des universités hommes-entreprises qui se sont tenues le 23 août dernier sur le très beau site de Smith Olafite, un partenariat qui s'ancre dans la durée avec le CK. On espère qu'il durera encore très longtemps. Vous le savez, cette émission est un peu hors format. On termine avec la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et on retrouve tout de suite Maxime Pavlak, qui est notre chroniqueur de cette semaine. Et ça, juste avant de se dire au revoir.
pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Maxime Pavlak.
Il est donc temps de retrouver la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Certes, un horaire un peu différent que d'habitude, mais on la retrouve quand même. Et c'est Maxime Pavlak qui est notre chroniqueur de cette semaine. Bonjour Maxime.
Bonjour Patrick.
Alors Maxime, vous avez été invité lors de votre dernier Bureau national des entrepreneurs et dirigeants chrétiens à vous rendre à Bruxelles et à visiter le Parlement européen. Que retirez-vous de cette visite, Maxime ?
Eh bien déjà, j'ai été marqué par mon manque de connaissance des instances européennes, et surtout au regard de leur rôle très important dans notre vie de tous les jours. Et puis malgré ça, tout le monde s'en désintéresse un peu, hein, moi le premier, j'avoue. Et puis on en parle très peu dans les médias. Voilà, on a eu la chance de rencontrer des hommes politiques chrétiens qui s'engagent pour le bien commun à travers leur mandat ou leur candidature. Et vraiment, ça fait chaud au cœur de voir cet engagement.
Que vous ont apporté ces échanges, notamment par rapport aux enjeux liés à l'environnement au service de l'homme que vous défendez, Maxime ?
Ouais, j'ai vraiment compris que sur ces sujets-là, on est à un moment charnière pour l'Europe. Et donc, c'est crucial pour les générations futures. En fait, l'élection à venir, elle est importante sur ce qui va se jouer au niveau de l'arrêt ou de la continuation du Green Deal. Parce que l'Europe s'est engagée de manière assez courageuse sur ce sujet-là, mais on est vraiment au milieu du guet. Et en fait, on ne peut pas mettre en pause. Soit on va créer une vraie force économique et une compétitivité mondiale sur ces enjeux de transition, soit on va devoir tout détricoter, avec en plus, évidemment, les conséquences pour notre maison commune, les générations futures. Mais on ratera une opportunité, comme on l'a raté, celle du digital, de l'intelligence artificielle, de créer un secteur d'excellence pour l'Europe.
Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire justement pour rendre ce fameux Green Deal opérationnel, Maxime ?
En fait, on peut pas rester là où on est parce qu'on n'a pas fini de mettre en place, de répondre à un enjeu majeur que sont la mise en place des mesures miroirs à nos frontières. En fait, c'est la possibilité de taxer ou d'interdire des productions qui ne respectent pas les standards écologiques et sociaux ou à l'entrée de nos frontières européennes. L'idée, c'est comment rehausser ces standards ? En fait, j'ai découvert que l'Europe avait, dans le cadre du Green Deal, justement, eu le courage d'ignorer ces traités, en fait, et de commencer à mettre en place ces mesures miroirs malgré cette impossibilité théorique. Donc ça, j'ai trouvé ça assez fort et on n'a pas beaucoup parlé, je trouve. Le souci, c'est que pour l'instant, ces mesures sont très partielles et ne peuvent pas entièrement nous protéger. Donc, il faut continuer.
Alors, qu'il y ait des alternatives quand même, Maxime ?
En fait, dans un monde de pur libre-échange, ce qu'on constate, c'est que c'est le moins-disant écologique et social qui gagne. En fait, on le sait maintenant, le consommateur seul, il tirera pas le marché vers le haut. L'alternative, c'est un monde ultra-libéral qui, on l'a vu, détruit notre maison commune et promeut une culture du déchet où les plus vulnérables sont les premières victimes. Donc, pas vraiment d'alternative pour moi, en tout cas, dans un contexte mondialisé. L'Europe, c'est le bon échelon pour peser suffisamment et imposer nos vues. Porter une vision en fait d'un capitalisme européen respectueux de la terre et des hommes qui s'accorde avec la pensée sociale chrétienne. Alors j'invite vraiment tous vos éditeurs à s'intéresser à cette élection et à peser par leur vote.
Merci beaucoup, c'est très important de le rappeler. Eh bien nous, on termine cette émission cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end, une très bonne soirée, une très bonne après-midi suivant l'heure à laquelle vous nous écoutez. À très bientôt, au revoir.